Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, Marianne Murat au micro de SBS French. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025. Merci de nous écouter, merci d'être avec nous. Comme tous les dimanches, on commence avec le personnage de la semaine. Et aujourd'hui, on dresse le portrait de Susan Ley, la nouvelle leader de l'opposition qui a pris la place de Peter Dutton. Notre portrait de la semaine, c'est Susan Ley, la première femme à diriger le Parti libéral d'Australie en 80 ans. Après la défaite de Peter Dutton lors des élections fédérales de 2025, Susan a en effet remporté la course à la direction avec une majorité de 29 voix contre 25. Découvrons le portrait de cette politicienne de 63 ans au parcours atypique avec François Vantôme.
Susan est née au Nigeria de parents anglais et a déménagé aux Émirats arabes unis à l'âge d'un an. Elle a ensuite passé une partie de son enfance en Angleterre et à l'âge de 10 ans, elle a fréquenté un internat, une période qu'elle décrit comme difficile mais définissante pour son intérêt pour la politique. À 13 ans, sa famille a déménagé en Australie, où après une brève expérience dans l'élevage de bétail dans le Queensland, ils se sont installés à Canberra. C'est là qu'elle a adopté la culture punk, une façon pour elle d'exprimer son identité. Elle a récemment partagé que ses voyages avec son père, qui travaillait pour le service de renseignement britannique MI6, lui ont permis d'embrasser une passion pour la diversité. Susan a également modifié l'orthographe de son prénom en ajoutant une lettre S en raison d'une croyance en la numérologie. Elle avait lu qu'ajouter une lettre S à son prénom pouvait influencer sa personnalité et contribuer à avoir une vie plus passionnante et intéressante. Après avoir été contrôleuse aérienne à Sydney, elle a multiplié les emplois pour payer ses cours de pilotage et a été engagée pour rassembler le bétail dans une station isolée dans le sud-ouest du Queensland. Elle a ensuite travaillé comme cuisinière, puis a élevé ses trois enfants avant de compléter ses études pour augmenter les revenus de la famille. Madame Ley est titulaire d'une licence en économie, d'une maîtrise en comptabilité et d'une maîtrise en fiscalité de l'Université du New South Wales. Elle partage aussi une passion pour la lecture de romans policiers et le sport.
Alors François, bien que sa carrière politique commence en 2001, Susan a occupé de nombreux postes importants en politique.
En effet, elle a été élue pour la première fois à la Chambre des représentants pour Farrer en 2001, après avoir fait campagne dans une caravane peinte en bleu. Et elle occupe depuis lors ce siège du New South Wales. Elle a travaillé comme secrétaire parlementaire sous John Howard et ministre adjointe sous Tony Abbott. En 2014, elle a été promue au cabinet et est devenue ministre de la Santé et des Sports. Lorsque Malcolm Turnbull a pris ses fonctions l'année suivante, elle a ajouté les soins aux personnes âgées à ses attributions et était en bonne voie pour continuer à gravir les échelons jusqu'à une controverse en 2017. Cette année-là, Susan a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir acheté un immeuble d'investissement sur la Gold Coast lors d'un voyage financé par le contribuable. Sous la pression médiatique et politique, elle a démissionné pour permettre au gouvernement de se concentrer sur d'autres enjeux et de restaurer la confiance du public. Elle est cependant revenue sur le devant de la scène en 2019 en tant que ministre de l'Environnement sous Scott Morrison. Lorsque le Parti libéral a perdu les élections fédérales de 2022, Susan Ley a été élue sans opposition au poste de chef adjoint de Peter Dutton. Elle a été nommée chef par intérim du Parti libéral lorsque Dutton a été évincé de son siège de Dixon lors des récentes élections fédérales, avant enfin de prendre la tête du parti. Notons aussi que Suzanne ne manque pas de personnalité. En 2023, elle a même fait sensation en se déguisant en Tina Turner pour un événement caritatif au sein du Parlement, ce qui a permis de récolter plus de 100 000 dollars pour la recherche sur le cancer.
Beaucoup se demandent quel type de leadership elle apportera. Elle a l'opportunité de transformer le discours du Parti libéral tout en abordant des enjeux cruciaux tels que la réconciliation avec les peuples aborigènes et la transition énergétique, François.
Alors, reconnaissant le défi qui l'attend, elle a déclaré « Nous avons fait face à une défaite significative et l'ampleur de cette défaite n'est pas perdue pour nous ». Dans sa première conférence de presse après son élection, Suzanne Ley a exprimé son désir d'adopter une approche nouvelle afin de respecter, refléter et représenter la modernité de l'Australie. Alors son leadership pourrait redéfinir l'identité du parti en le rendant plus inclusif tout en conservant ses racines économiques. Alors que le débat sur l'énergie nucléaire en Australie continue de diviser, Suzanne estime que la transition vers les énergies renouvelables doit être menée par le nucléaire et le gaz pour assurer la sécurité énergétique du pays. Elle s'est aussi inquiétée de l'impact visuel des éoliennes géantes et des grandes centrales solaires sur les paysages ruraux. Concernant le drapeau national et son rapport avec les symboles aborigènes, Suzanne Ley a exprimé le besoin d'unir les Australiens autour d'une vision qui inclurait à la fois le drapeau australien et la reconnaissance des cultures et des droits aborigènes. Enfin, un autre problème majeur auquel Suzanne Ley devra faire face est le manque de représentativité féminine dans les rangs des libéraux, qui a conduit de nombreuses électrices à se détourner du parti. Suzanne Ley a admis que la coalition avait déçu les femmes et a exprimé son désir de rétablir cette relation.
Merci beaucoup François Vantôme. C'était Salif Keïta avec sa chanson Chérie. Une très courte pause, messieurs, dames, et on se retrouve dans un instant. Nous allons rencontrer Vittorio, un jeune homme qui nous raconte son périple à travers le monde en faisant du stop en bateau. C'est original, il nous raconte tout.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le plaisir d'avoir Vittorio Amestoi. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes dans le locaux de Radio SBS à Melbourne. Pour commencer, pour vous présenter aux auditeurs, parlez-nous de votre parcours parce que vous faites du bateau stop à travers le monde.
C'est ça. En fait, j'ai démarré un tour du monde il y a 20 mois maintenant. Et là, je suis de passage en Australie parce que j'ai un cousin qui est ici. Et j'ai démarré en fait en prenant un bateau de la Croatie pour aller... but, c'était d'aller en Amérique du Sud. Et du coup, on a pris ce bateau pendant 2 mois où on a traversé la Méditerranée puis l'Atlantique. Pour arriver en fait dans les Caraïbes. Et ensuite, on a trouvé d'autres bateaux parce qu'on continue en fait à trouver des bateaux en allant dans les ports et demandant si des gens vont dans la même direction de que nous. Et on passe de bateau en bateau pour arriver. Je suis arrivé en Colombie.
Et vous étiez combien à bord de ce bateau au départ ?
En fait, moi, j'ai démarré avec un compagnon, avec Baptiste, il s'appelle, et on a démarré sur un bateau, un énorme catamaran de 52 pieds, c'est-à-dire 13 mètres et quelques, à 5, sur un bateau où il y avait 14 couchettes. Du coup, on avait chacun notre cabine double avec nos toilettes privées. Enfin, c'était un palace, quoi. Et du coup, ouais, on était 5, 4 équipiers plus un capitaine.
Et ça coûte très cher de louer un tel bateau ?
Alors ça c'était dû à un convoyage, c'est-à-dire que le capitaine était payé pour transporter le bateau, parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver, les bateaux ne sont pas utiles en Méditerranée, du coup ils les transportent dans les Caraïbes où ils vont pouvoir faire du business en fait avec ce bateau. Et lui, il a besoin d'équipiers. Mais si vous allez dans les Caraïbes et que vous essayez de louer un bateau comme ça, il va vous coûter entre 10 et 15 000 euros la semaine à louer.
Alors, parler de ces aventures en Amérique latine, vous arrivez à Honduras, il y a des rencontres avec les pirates.
Oui, c'est ça. En fait, on est, après avoir fait l'Amérique du Sud pendant un an, on a repris un bateau pour traverser le Pacifique. Et en fait, on a rencontré un capitaine en Martinique qui partait l'année d'après du Guatemala. Et en fait, on a fait le trajet Guatemala-Panama. Et sur ce trajet Guatemala-Panama, en fait, on passait au large du Honduras. Et il faut savoir que l'Honduras, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et la situation est horrible. Et du coup, les pêcheurs attaquent tous les bateaux qui passent dans les parages pour essayer d'avoir des revenus, d'augmenter leurs revenus, quoi. Et du coup, sur tous les blocs de marins, il y avait énormément d'attaques de pirates au large du Honduras. Du coup, on a essayé en fait de passer on est passé à 200 km hein, quand même des côtes du Honduras. Mais il y a des hauts fonds, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de poissons. Et les pêcheurs vont du coup un peu plus loin. Et on pensait être assez au large et on n'était pas du tout assez au large. Et lorsqu'on est passé au niveau du Honduras, on a aperçu, heureusement c'était de nuit, du coup on a aperçu les lumières. On a éteint toutes nos lumières du bateau pour passer inaperçu et on a slalomé entre les bateaux de pêcheurs pendant la nuit. Mais clairement pendant la journée, on avait je pense 50% de chance, voire plus, de se faire attaquer, de se faire dépouiller par des pêcheurs. Et là, c'est des questions un peu horribles hein, qui se passent. Moi, il y avait ma copine à ce moment-là. Où est-ce que tu la caches sur le bateau? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attaques les gens? Est-ce que tu sors les harpons pour les attaquer? Enfin bref, des questions horribles un peu que tu te poses. Heureusement, on est passé de nuit. Il n'y a pas eu au final de conséquences. Une histoire à raconter.
Est-ce que ces pirates prennent des gens comme vous comme otages, il y a des fois?
Ben en fait, ils vont piquer tout ce qui a de la valeur, des fois même piquer le bateau. Et du coup, s'ils piquent le bateau, ben, il faut que les équipiers y partent. Et du coup, pour partir, ben, ou ils les tuent pour ne pas laisser de témoins. Entendu un peu des deux histoires, où ils les jettent juste à l'eau, ou des fois ils laissent le bateau. Après, ça dépend... C'est pas les pêcheurs, c'est pas des pirates de base, hein, c'est pas des criminels de base, c'est juste que c'est des gens qui ont pas d'argent, quoi. Et du coup, la misère apporte la violence.
Et après Honduras, vous vous dirigez vers d'autres pays comme la Colombie, d'après ce que je comprends.
C'est ça. En fait, ça c'était plus sur le départ. Du coup, on arrive dans les Caraïbes. Après, on fait pendant une année toute l'Amérique du Sud. Et en fait, lorsqu'on fait l'Amérique du Sud, on arrive en Colombie et on descend toute la cordillère des Andes. C'est-à-dire, on fait Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine.
Et vous récupérez des passagers.
Ouais, en fait, on a démarré à deux, mais après, là, à ce moment-là, on voyageait avec deux filles. En Colombie, on a voyagé pendant trois semaines avec deux filles, et à un moment, on a voyagé aussi avec une mamie colombienne. Ça, c'est une anecdote qui est vraiment folle. C'est qu'on était en Colombie, on était avec ces deux filles, du coup, et on s'arrête dans un... Pour voyager autant de temps, on vivait en tente, presque tout le temps, dans des petits villages. Et du coup, on arrive à 8h, 9h le soir et on décide d'aller se boire une bière avant d'aller poser notre tente. Et en allant boire une bière, on rencontre en fait trois petits vieux colombiens qui étaient en train de boire pour fêter je sais pas trop quoi, pas trop de raison. Et au final, on commence à discuter avec eux, on finit par faire un peu la fête, parce que bon, les Colombiens, c'est des gros fêtards, des gros danseurs. Et un peu bourré, il y a Gloria, cette petite mamie colombienne, qui nous propose une première fois, une deuxième fois, une troisième fois d'aller chez elle. On refuse les deux premières. À la troisième, on décide d'aller avec elle. Et durant cette nuit, elle nous dit bah, « Vous avez vraiment trop de chance. Moi, je suis jamais sorti de mon pays, et ainsi de suite. » Et du coup, le lendemain, je lui dis bah, « Regarde, j'étudie un peu les vols. J'étudie, nous, on vivait avec 15 euros par jour. » Du coup, j'ai dit, voilà, ça va te coûter, si tu voyages 10 jours avec nous, ça va te coûter tant d'argent, et le vol, ça va te coûter tant d'argent. Et du coup, j'arrive avec le budget, et j'ai dit, voilà, ça, c'est ce que ça va. Elle dit, ouais, mais je dois acheter elle devait acheter de l'électroménager, du coup, je pourrais pas faire les deux et tout. Et du coup, elle me dit ça, et je dis, mais si on te paye le billet, est-ce que tu viens avec nous? Et elle regarde, elle me dit oui, mais j'ai pas envie de vous obliger. On discute les quatre, on fait bon, on lui achète le billet. Le soir même, on lui a acheté un billet pour l'Équateur. Et du coup, on a fini la Colombie, on est allé la chercher à Quito. Et pendant 10 jours, on a voyagé avec cette petite grand-mère de 70 ans en Équateur pendant 10 jours. C'était incroyable.
Vittorio, parlez un petit peu des pays, des îles que vous avez pu visiter dans le Pacifique.
Du coup, après avoir fait cette Amérique du Sud, je reprends un bateau pour traverser le Pacifique pendant 35 jours avec un Américain. On était en duo sur le bateau. J'arrive sur les îles Marquises, du coup, les îles les plus éloignées de la Polynésie française. Et de la Polynésie française, j'ai commencé à faire tout le tour un peu. Du coup, je suis passé par les Marquises, les Tuamotu, qui est une archipel. En fait, il y a plusieurs archipels dans la Polynésie, je sais pas si vous connaissez, mais il y a du coup l'archipel des Marquises, l'archipel des Gambiers, des Tuamotu, les îles de la Société aussi, et Austral aussi, j'ai oublié. Et bref, du coup, j'arrive sur les Marquises et après, je me suis baladé en bateau sur un peu les îles des Tuamotu, plus les îles de la Société. Et du coup, là encore, j'ai fait en bateau. Et la seule chose, c'est que j'ai voulu le plus possible avoir un voyage avec une empreinte carbone le plus bas possible. Mais là, j'arrive en fait à la fin de mon voyage. Il me reste plus que 2 mois et je pourrais pas boucler la fin de mon voyage en bateau parce que ça prend du temps en fait. Et du coup, j'ai décidé depuis Tahiti de reprendre un peu l'avion. Et c'est de Tahiti que je suis après reparti en avion pour rejoindre mon cousin à Melbourne et toute sa famille.
Et donc là, vous allez profiter pour peut-être faire du tourisme en Australie ?
Je sais que j'aime bien prendre mon temps quand je voyage. Et du coup, l'Australie, c'est tellement énorme que j'aimerais bien y voyager pour plusieurs mois. C'est comme la Nouvelle-Zélande, c'est des endroits où j'aimerais bien faire un long voyage. Et du coup, c'est juste que là, je voulais aller voir l'Asie. Et je passais obligatoirement, en fait, de la Polynésie française, je passais obligatoirement par l'Australie. Et je pouvais pas passer par l'Australie et pas m'arrêter voir mon cousin que j'avais pas vu depuis une dizaine d'années. Du coup, et vu que je suis moitié italien, on est quand même très proche. La famille italienne, c'est très soudé. Ouais. Du coup, je me suis arrêté quelques jours, une grosse semaine ici à Melbourne.
Vittorio, quel est le message que vous auriez pour des gens qui aimeraient entreprendre des voyages comme vous dans des bateaux et sillonner le monde?
Si vous voulez vous lancer, il faut avoir peur de rien. Moi, j'étais jamais monté sur un bateau avant, et ça s'est très très bien passé. J'en rencontre beaucoup des gens qui l'ont fait. Du coup, il n'y a pas de souci. Au niveau du budget, c'est souvent une problématique. Il faut se dire, moi, j'ai voyagé 14 mois. Mes 14 premiers mois, j'ai dépensé 6000 euros pour tout, de A à Z. Du coup, regardez vos économies, vous verrez que vous pourrez facilement faire un voyage comme celui-ci. Il faut avoir peur de rien et surtout prendre son temps. Je pense que ce que j'ai adoré dans ce voyage, c'est prendre son temps. J'ai passé à peu près 2 mois par pays, ça permet de se glisser. Je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol, j'ai appris l'espagnol. On a une langue latine, du coup. Il faut juste mettre un peu toutes les règles de société de côté, se lancer et vous verrez, c'est génial. Vous faites des rencontres incroyables et vous apprenez beaucoup sur vous-même aussi. Du coup, lancez-vous si vous avez l'occasion.
Vittorio Amestoy, merci et bon vent, comme on dit.
Exactement, merci beaucoup.
Un extrait de la chanson des Négresses Vertes, c'est pas la mer à boire. Messieurs, dames, est-ce que vous saviez que l'Australie est le 6e marché mondial du champagne? Nous avons rencontré David Chatillon et Maxime Toubar. Ils sont les représentants du champagne à travers le monde.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'une des merveilles que l'on peut trouver en France et à travers le monde. En tout cas, une des merveilles françaises, le champagne. Et on a des membres du comité interprofessionnel du champagne avec nous. Je vous laisse vous présenter, c'est plus simple.
Bonjour, David Chatillon, je suis président de l'Union des Maisons de Champagne et co-président du comité champagne.
Bonjour, Maxime Toubar, moi je suis viticulteur en Champagne et donc je suis président du syndicat général des vignerons et co-président de l'interprofession.
D'accord, alors je vais vous poser la première question. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous amène en Australie? La promotion du champagne en tant que tel?
Alors, pas la promotion, mais la découverte du marché. L'Australie est le sixième marché export du champagne. Et donc, pour nous, c'est très important de venir nous rendre compte sur place des modes de consommation, de la réalité du champagne en Australie. Et je dois dire qu'on n'est pas, déçus.
La réalité du champagne, alors qu'on mette bien les choses, le champagne, c'est fait en France, dans une certaine région. On en a beaucoup parlé. On va en parler ici. C'est très délimité, très, je vais pas dire restreint parce que c'est un mauvais mot, restreint, c'est très organisé, on va dire. Donc, il n'y a pas de champagne australien, que ce soit bien clair. On parle de la consommation du champagne. Alors, j'allais dire français, mais le champagne, c'est forcément français.
C'est ça. Donc, c'est une des activités du comité champagne, c'est de promouvoir l'appellation, donc le nom, parce que c'est extrêmement important. Et donc, on parcourt le monde pour en permanence rappeler que le champagne est uniquement frais en France. Et donc, c'est important de le rappeler en permanence.
Quand on dit promouvoir, c'est promouvoir et protéger, donc, du coup.
Exactement. Exactement. Protéger, c'est... Alors, il se trouve que en Australie, l'appellation champagne est protégée, c'est-à-dire que seuls les vins de champagne peuvent être étiquetés champagne. C'est le cas presque partout dans le monde, sauf encore sur deux marchés, les États-Unis et la Russie.
D'accord. Ou c'est en chemin, vous y travaillez, c'est compliqué. Alors, la Russie, je pense que ça doit être très compliqué.
En Russie, c'est un peu dur. Alors, en Russie, on n'était pas loin d'y arriver, mais il s'est passé des trucs. Et aux États-Unis, les choses avancent. On y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, y compris en faisant défendre le concept d'origine par des alliés producteurs de vin américains. Ça avance. Ce sera long.
Quand on voit, enfin vous l'avez vu, mais quand on voit ici, il y a des maisons françaises qui aussi sont très implantées ici. Je pense à Chandon par exemple, donc Chandon de Mouette et Chandon, qui font des vins, alors c'est pas des champagnes, mais des vins un petit peu quand même assimilés si on n'est pas tellement connaisseur. Comment vous voyez ça vous?
Alors le champagne c'est moins de 10% de la production de vins effervescents dans le monde, en volume. En valeur, c'est
un peu autre chose.
historiquement, les champenois, les grandes maisons de champagne, ont produit des vins effervescents un peu partout dans le monde, en Californie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et n'y a pas de confusion possible parce que, en l'occurrence, elles n'utilisent évidemment champagne que pour désigner leur vin de champagne.
Alors pourquoi, je parle aux viticulteurs et aux producteurs de champagne, pourquoi beaucoup de maisons de champagne sont tenues par des dames comme la veuve Clicquot? Enfin, ça, historiquement, c'était féminin quand même le champagne.
C'est vrai,
pourquoi?
Il y a
une raison?
Je suis pas sûr qu'il y ait une raison vraiment bien précise. En tout cas, il est évident que il y a beaucoup de veuves. Enfin, il y avait beaucoup de veuves. Il y a encore beaucoup de noms de champagne qui s'appellent veuves. Alors, on en a plein.
C'est
en tête,
très risqué comme métier.
Ouais.
Pour les hommes.
Et on voit aujourd'hui de plus en plus de chefs de cave, chefs de FE. Beaucoup de patronnes de maisons, beaucoup de vigneronnes, beaucoup de viticultrices. Donc, on a, voilà, c'est pas réservé exclusivement aux hommes. Ça, c'est assez nouveau.
Mmh, d'accord. Épernay, c'est une ville extraordinaire. Il est très beau. Et j'ai eu la chance d'y aller pour le Tour de France. D'ailleurs, c'est vraiment une belle ville. C'est la capitale du Champagne, Épernay. Il y a l'avenue de Champagne. Est-ce que c'est vraiment la capitale?
Alors, disons que c'est l'épicentre du Champagne parce que Épernay est situé. On peut dire en plein cœur de la Champagne. Il y a d'autres très belles villes en Champagne, Reims, Château-Thierry, Châlons est aussi une ville du Champagne, et puis Troyes, plus au sud.
D'accord. Épernay, il y a Julien Lafilippe qui a gagné un maillot jaune. Ça, c'est autre chose. Le champagne en tant que tel, si on revient un petit peu en arrière sur la protection du nom champagne et pourquoi elle est importante, il y avait eu des dérives quand même. Il y a eu des grosses dérives. C'était un parfum, je crois. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est la goutte, entre guillemets, qui a fait déborder la flûte?
La protection du mot champagne est extrêmement ancienne puisque les premières actions de protection du nom remontent au milieu du 19e siècle. C'est même la raison pour laquelle les champenois se sont fédérés alors même que l'appellation n'existait pas, puisque les appellations d'origine, ça ne date que du début du 20e. Et donc, ils n'ont cessé de protéger ce nom. Et vous évoquez, alors c'est un combat permanent. Mmh. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart, la quasi-totalité de la planète protège le mot champagne. Mais il n'empêche qu'on a encore à faire valoir ce mot. Et vous faites allusion à une affaire qui remonte à il y a une trentaine d'années.
Oui, j'étais aux États-Unis. Je pourrais presque vous dire que c'était en 95 que j'y étais. C'était à peu près ça, je pense, dans ces eaux-là.
Et en fait, il est parfois difficile de faire comprendre que champagne ne peut pas être approprié. Personne ne peut s'approprier ce mot. Et à l'époque, je crois que certains disaient, mais attendez, Yves Saint-Laurent, c'est la France, c'est le luxe, donc ça ne porte en aucun cas préjudice au mot champagne. Au contraire, ça le valorise, etc. Sauf que, par principe, nous partageons ce nom que les champenois ont contribué à créer, à entretenir, à valoriser. Et donc, c'est un patrimoine commun entre vignerons et maisons, et personne d'autre ne peut utiliser ce mot. Parce que, imaginez que quelqu'un se l'approprie. Alors, on dit c'est Yves Saint-Laurent qui fait un parfum, c'est magnifique. Mais si Yves Saint-Laurent est racheté et se met à faire des chaussettes et des slips, c'est une appropriation privée de la marque.
D'accord. Ça vous fatigue d'en parler ou pas?
Parce que...
Non, est-ce que ça vous fait qu'on revienne toujours
sur
cette défense?
Ah non, pas du tout, au contraire. C'est notre...
C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on se rend compte aussi de la force de frappe de l'appellation. Souvent, on a beaucoup, en effet, de combats, on mène beaucoup de combats contre d'autres vins qui seraient tentés de s'appeler vins de champagne. Mais il y a d'autres produits. On voit aujourd'hui beaucoup plus de produits qui s'appellent champagne ou qui essaient de s'appeler champagne parce que ça fait vendre.
Des chocolats.
Donc, des chocolats, du papier toilette... La couleur champagne. D'accord. Et donc, on mène ce combat-là. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand un pays reconnaît l'appellation champagne, David l'a dit, il y a une centaine de pays aujourd'hui, donc ils s'interdisent d'en produire et d'en importer. Donc ça, plus on reconnaît d'appellation champagne à travers le monde, et plus on ferme la porte aussi à ceux, et on l'a cité, les deux pays... principaux qui continuent à en faire.
Mais c'est intéressant, et on va finir là-dessus, on va parler après du produit en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est que... En dehors de la France, c'est compliqué de parler des AOP, des terroirs. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même très, alors je vais pas dire franchouillard, mais c'est très franco-français. Et on sent que le champagne, même si c'est pas forcément dans le cadre des AOP, dans ce cadre, vous êtes dans cette mouvance-là. Et c'est important de pouvoir en parler à l'étranger, parce que un Australien, il ne comprend pas ce que c'est un terroir. Pour lui, on va faire du vin rouge à gauche, à droite, au milieu. Et on comprend pas pourquoi c'est un cépage. Et on comprend pas pourquoi c'est. Et est-ce que une visite en Australie, c'est aussi pouvoir en parler, pouvoir éduquer aussi, c'est ça?
Alors c'est une de nos missions aussi d'éduquer les consommateurs au champagne, son origine, ses caractéristiques, la manière dont on le sert, et puis après chacun évidemment apprécie à sa manière, mais oui, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire comprendre. Pas tellement pour le champagne, parce que le champagne c'est assez simple. C'est une seule appellation qui est produite dans une région assez grande, donc avec un volume de vin significatif. Mais quand on entre dans le détail du système des appellations d'origine et des sous-régions et des communes et des machins, là qui n'existe pas en champagne, là ça devient compliqué.
Oui. Mais vous voyez un peu en fer de lance de cette défense un peu du patrimoine gastronomique et tout ce qui va avec.
Champagne, c'est un peu synonyme d'art de vivre à la française partout dans le monde, donc oui.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon champagne?
Un bon champagne, c'est un bon viticulteur qui produit des bons raisins, qui va soit vinifier, donc vendre ses bouteilles, soit les confier à une maison de champagne qui le fera. Donc c'est du temps, c'est de la technique, c'est un savoir-faire, c'est... un patrimoine, c'est un terroir, donc c'est pas une chose, c'est une multitude de choses. Et on voit bien que ça fait écho parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs à travers le monde qui apprécient notre produit. Donc on voit bien que l'appellation, on en parlait il y a quelques instants, l'appellation, mais aussi le produit, mais aussi l'image que le champagne procure, c'est du bien-être, c'est l'art de vivre à la française, c'est la fête, c'est la célébration et c'est la journée du champagne aujourd'hui. On voit bien que partout ici en Australie, dans bon nombre d'hôtels, de bars, d'endroits où il fait bon vivre, c'est des coupes qui sont servies sur les tables et ça fait chaud au cœur de voir que notre petit produit international fleuron à la fois du territoire mais aussi de la France et de l'Europe traverse ses frontières et de plus en plus.
D'accord. Et comment justement le champagne est devenu synonyme de fête ? Synonyme de, il y a un moment on a dû décider quelque part que on allait s'amuser avec du champagne. Faut boire avec modération, faut le rappeler. Mais comment c'est devenu ça ? Il y a eu un acte, qu'il y a eu une mission.
C'est 300 ans d'histoire. Et cette histoire, c'est d'abord celle au début du XVIIIe siècle d'entrepreneurs qui se sont mis à produire ce vin fou dont ils maîtrisaient pas le process. D'ailleurs, on ne savait pas pourquoi ça moussait, quand ça moussait, etc. Et qui se sont mis à le vendre à la cour de France et puis dans toutes les cours européennes. Au XIXe siècle, c'est devenu le vin de la bourgeoisie industrielle et puis ensuite des années folles. Donc les champenois ont toujours associé leur vin à la célébration, au succès, aux victoires. Et donc c'est un mythe qu'on entretient aujourd'hui. Mais le champagne, c'est aujourd'hui beaucoup plus que le vin de la célébration. C'est aussi redevenu le vin de la gastronomie et le vin de un vin de table, comme on dit ici en Australie. Donc c'est un vin qui se marie avec énormément d'occasions. Et ça, c'est assez unique dans le monde.
Si on parle du produit en lui-même, il a évolué depuis 200 ans, 300 ans. Un champagne, si aujourd'hui, miraculeusement, je trouverais une bouteille qui est inchangée, qui n'a pas bougé, qui était comme à sa sortie de chez d'il y a 200 ans, c'est un produit qui est différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Il s'est adapté.
Alors bien sûr, une des réussites aussi des champenois à travers les siècles, c'est d'avoir su adapter le produit en lui-même aux consommateurs. On prenait le champagne très sucré auparavant, en dessert, maintenant on le prend plutôt en apéritif et plutôt brut, voire extra brut, et on continuera encore à le faire évoluer. Donc on voit aussi, quand on se compare avec d'autres collègues, d'autres secteurs, d'autres endroits, parfois des régions où on n'a pas su évoluer, on n'a pas su prendre en considération l'évolution du goût des consommateurs. Et nous, la Champagne, on a su en permanence se remettre en cause à la fois sur le goût, mais aussi sur les pratiques. Et ça, c'est important parce que c'est aussi gage à la fois de réussite et puis de pérennité dans le temps. Parce que on a trop d'exemples autour de nous de produits qui durent 5, 10, 15 ans, qui sont une mode, et puis au bout de 10 ans, qui s'arrêtent et on ne sait pas pourquoi, et d'autres viennent prendre la place. Donc le champagne dure aussi parce qu'on s'adapte, parce que nous nous adaptons en permanence au goût du consommateur qu'on essaie de connaître, qu'on essaie d'identifier. Et on est aujourd'hui très à l'écoute de ce que les jeunes consomment, l'évolution de la consommation du vin chez les jeunes en particulier, pour essayer d'anticiper les choses.
Il y a des choses qui vous font dresser les poils sur les bras quand vous voyez les gens mélanger des choses ou mettre des choses. On est plutôt ouvert.
On est plutôt ouvert parce que je pense qu'il faut justement
même mettre du coca dans le champagne. Il y a des limites.
On le voit pas souvent.
On le voit pas souvent. C'est dommage, mais on le voit pas souvent. Hein. On le conseille pas d'ailleurs.
D'accord. Je vais poser une dernière question. Flûte ou coupe ? Quel est le meilleur
vin ? Alors ça, c'est un vrai sujet.
On pourrait en faire une grosse discussion.
Verre à vin.
Plus c'est un goût personnel ou
C'est un goût personnel. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la flûte concentre trop les arômes. Et on se rend compte qu'on a du mal à vraiment à apprécier la qualité du goût du vin. Donc verre à vin plus large.
D'accord. Mais pas la coupe.
Pas la coupe.
D'accord. Vous êtes d'accord ?
Alors moi, je suis d'accord sur le plan organoleptique et on parlait du vin de la d'un vin de gastronomie et je pense qu'effectivement le verre à vin révèle toutes les qualités du vin de champagne. Après, si vous faites la fête, une coupe c'est magnifique. Alors c'est pas idéal parce que l'effervescence s'en va plus vite, les arômes aussi, mais c'est très beau et une flûte aussi c'est caractéristique du vin de champagne. Donc les trois.
Les trois, d'accord. Peu importe, du moment qu'on consomme du champagne.
Exactement.
Avec modération.
J'ai pas dit ça.
Je le dis, mais avec modération. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Tu me blesses, me meurtris et te jure de l'adieu.
C'était Charles Aznavour, bien sûr, et la chanson « Parce que tu crois », magnifique chanson. Vous avez rencontré Jean-Marc Propp, si vous avez écouté notre émission d'hier, ce passionné du Petit Prince. Et depuis 1980, il collectionne les éditions de l'œuvre de Saint-Exupéry dans toutes les langues. Et depuis 2013, eh bien, sa fondation contribue même à de nouvelles publications à travers le monde. Suite et fin de l'interview diffusée hier, c'est maintenant sur SBS French. Et si vous voulez la retrouver en intégralité, elle est disponible sur notre site internet SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Le Petit Prince, c'est quelque chose qui est dans le domaine public dans un peu partout. Je crois que, sauf dans trois pays, la France, les États-Unis et l'Espagne, si je me trompe, si je me trompe pas. Mais en France, c'est intéressant parce que la période aurait dû déjà être passé, mais je crois que c'est jusqu'en 2032 ou 2035 ça a été étendu, puisqu'il est mort pour la France en 1944, Antoine de Saint-Exupéry.
Tout à fait, Saint-Exupéry meurt sous les drapeaux, et les écrivains qui ont malheur de mourir en service pour la France, eh bien leurs droits sont prolongés, ce qui est le cas de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disparaît le 31 juillet 44, abattu par un chasseur allemand dans son Lightning P-38, qui est à cette époque un des chasseurs les plus modernes qui soit. Il a fait une mission de reconnaissance sur la France depuis la Corse, et le 31 juillet 1944, il ne se repose plus à la base. Et c'est une disparition qui reste mystérieuse pendant 64 ans, jusqu'à ce que une découverte complètement improbable se fasse. Un pêcheur français découvre dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry, à un endroit où vraiment on ne pensait pas qu'il ait pu tomber. Donc les recherches reprennent, on finit par retrouver son avion, une partie de son avion bien sûr, et le mystère est dévoilé petit à petit. Des journalistes d'investigation vont à la recherche de ce qui était l'objet d'un livre qui s'intitule « Le dernier mystère » et qui amène à retrouver Horst Ripper, le pilote du chasseur allemand qui, ce 31 juillet 44, avait abattu Saint-Ex.
Il
rencontre ces journalistes, il leur dit qu'il n'a plus que quelques mois à vivre, et il accepte de livrer ses secrets à la condition que tout ça ne soit publié qu'après sa mort, ce que ces journalistes, bien sûr, acceptent, et ce qui permet de mettre un point final au mystère de la disparition de Saint-Exupéry.
C'est incroyable parce qu'il avait presque peur de son acte. C'était un acte de guerre, hein, donc c'était, on va pas le légitimer forcément, mais c'était un acte de guerre. C'est comme ça. Et il a voulu attendre son décès pour qu'on puisse révéler cette histoire. Il avait une certaine peur, peut-être l'impact que Saint-Exupéry a laissé dans les années après.
Oui, alors il y a des nombreux chapitres sous-jacents à ce que vous évoquez. D'abord, Saint-Exupéry n'est pas l'ami de De Gaulle. Ça, c'est malheureusement quelque
chose. C'est important
chose
de le savoir. C'est important de le noter.
Voilà. Et ça, la prétérité, Saint-Exupéry ne fait pas partie des livres d'histoire, des livres de littérature, pardon, qui sont distribués aux jeunes Français dans les années d'après-guerre. Il est banni par De Gaulle, de l'éducation, en France. Tout ça remonte à un discours, une interview qu'il avait donnée, donc Saint-Exupéry avait donné à New York, où il prétendait clairement, parce qu'il n'était bien sûr pas au courant de ce qui se préparait à Londres et du débarquement qui était en train de se mettre en place, mais il était d'avis que seuls les États-Unis pourraient mettre un point final à l'occupation nazie. Donc, il l'a dit, et bien sûr, ça a blessé le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, dans son discours d'Alger, mentionne de nombreux auteurs français résistants, mais pas Saint-Exupéry. Ça, c'est une des faces mystérieuses de son absence d'après-guerre, enfin mystérieuse, un des faits. Une autre chose qui a bien sûr alimenté le mystère de sa disparition, c'est sa dernière lettre, la dernière lettre que Saint-Exupéry écrit. Il la laisse sur son bureau, elle est constituée de deux pages, et sa dernière phrase, c'est, je cite, « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien, la termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot, moi j'étais fait pour être jardinier. » C'est une phase où il évoque à la fin le fait qu'il puisse être abattu, ouais. Ce qui se passe ce jour même et qui fait bien sûr couler beaucoup d'encre, parce que certains ont prétendu que peut-être Saint-Exupéry s'était donné la mort, ce qui bien sûr n'a pas été le cas, mais qui n'a été prouvé que 64 ans plus tard.
D'accord. Si on va revenir de son vivant, à Antoine de Saint-Exupéry, vous avez mentionné New York. C'est une ville qui est très importante pour lui. D'ailleurs, il y a une partie du livre qui a été écrite, je crois, dans un restaurant ou dans un café à New York. Et ce livre a vraiment une genèse mondiale, plus que dans un seul endroit. Il a mis du temps à l'écrire, ce qui retrace quand même beaucoup de chapitres de sa vie, dont je crois que c'est en 1935, il s'était écrasé dans le désert. On peut lier ça au Petit Prince qui se retrouve lui-même également dans le désert.
Vous avez tout à fait raison, le Petit Prince est un livre autobiographique. Saint-Exupéry, il fait un condensé de ce qu'il a vécu dans sa vie et des messages qu'il veut nous laisser. Il y a deux grands livres. Alors, Saint-Exupéry touche des prix pour ses ouvrages, donc c'est un auteur à succès. Par contre, il nous laisse deux grands témoignages. L'un, c'est Citadelle, qui est son œuvre posthume, qu'il écrit tout au long de sa vie. Et le deuxième, c'est Le Petit Prince, qui nous donne les mêmes messages, mais de façon beaucoup plus accessible. Très souvent, on cite Saint-Exupéry, et on pense que c'est dans Le Petit Prince, mais non, c'est dans Citadelle. Par exemple, cette phrase célèbre qui ouvre la porte de l'écologie des années avant que le premier parti écologiste voit le jour, Saint-Exupéry nous dit « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Et ce message écolo avant l'heure, il n'est pas contenu dans Le Petit Prince, mais dans Citadelle. Donc, deux œuvres majeures. Le Petit Prince est écrit, vous avez raison, à New York. Pas à New York, mais à Long Island. Le couple Saint-Exupéry et Consuelo est un couple un peu volage. Chacun avait ses amis, ses amants. Et à un certain moment, Consuelo ne supporte pas tout à fait cette situation et décide d'isoler Saint-Ex en louant une maison à l'extérieur de New York où la vie, espère-t-elle, sera plus calme et plaisible. Ce qui est le cas, et c'est cet exil sur Long Island, juste à côté de New York, qui permet à Saint-Ex de prendre un peu de hauteur, de jouer aux échecs avec des amis. Il a très peu de visiteurs. Et là, à Long Island, il écrit Le Petit Prince, qui paraît le 6 avril 43, donc il y a très précisément 80 ans, à New York. Il donne le manuscrit à son amie, Sylvia Hamilton. Ce manuscrit est aujourd'hui conservé à la Morgan Library de New York. Il est venu pour la première fois en France l'année passée, où il a été exposé au Musée des Arts Décoratifs, qui est l'aile est du musée du Louvre. Et donc, voilà un peu la genèse du Petit Prince. Vous évoquez un café. Alors, c'est effectivement l'idée qui a été évoquée par son éditeur, ses éditeurs, Reinhard Hitchcock, qui, dans un café, dit l'histoire ou les anecdotes qui ont pu être reconstituées. Eh bien, dans un café, il propose à Saint-Exupéry de mettre toute sa philosophie dans un conte pour enfants. Et Saint-Exupéry accepte et il y a des photos de cette période où on voit les deux éditeurs, Reinald Hitchcock et Saint-Ex, qui profitaient de la vie new-yorkaise, loin de la guerre, en exil.
Vous mentionnez plusieurs fois Saint-Ex. Il y a presque une certaine amitié, on sent dans la façon dont vous le dites. Moi, je l'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Vous l'appelez Saint-Ex. Vous êtes proche de lui parce que vous naviguez un peu dans son monde depuis un petit peu de temps quand même.
Oui, puis j'ai lié une très bonne relation avec ses descendants, donc Olivier Daguet, le reste de la famille. Donc oui, j'œuvre aussi un petit peu modestement à travers ma collection, mon site. Je participe à des expositions. Je suis un modeste ambassadeur du Petit Prince et je me plais de dire que le Petit Prince vit parmi nous et qu'il mérite qu'on diffuse ses messages. Et ma fondation, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, a pour objectif de permettre à des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, autour du monde, de lire ce livre dans leur langue maternelle. Donc chaque année, j'organise entre 6 et 10 nouvelles traductions du Petit Prince, avec des contacts divers, et puis cela débouche sur l'impression du livre, à raison de 1000 à 5000, des fois même plus, exemplaires, qui sont distribués gratuitement dans les pays ou les régions concernées. C'est comme ça qu'on a fait l'année passée, par exemple, le Petit Prince en Rapa Nui, qui est la langue de l'île de Pâques. Donc, c'est une opération qui prend beaucoup de temps, presque 3 ans. Rapa Nui, on trouve une traductrice, elle abandonne, on en trouve une autre. Et puis un jour, on a un texte, on le met en page. Et puis comme il n'y a pas d'imprimerie sur l'île de Pâques, on fait imprimer 1000 exemplaires à Santiago du Chili, on les transporte sur les îles de Pâques et grâce à des interlocuteurs locaux, on distribue ces livres gratuitement dans les locuteurs du Rapa Nui.
Alors je vais vous poser une question, lambda est très australienne, mais est-ce qu'il y a une traduction dans certaines langues indigènes ou aborigènes? Est-ce que ça existe?
Non. Non.
Il y a un défi pour vous là, il y a un défi pour vous.
Il y a un défi, moi je suis preneur d'un projet, alors si quelqu'un sur vos ondes se sent de me mettre en contact avec des locuteurs aborigènes. Alors, c'est clair, ils vont partir de l'anglais parce qu'ils vont pas parler le français. Mais oui, c'est comme ça que naissent mes projets, à travers un contact. Et après, bien sûr, moi, je fais le reste. C'est-à-dire, je conseille, je paye le traducteur, je paye quelqu'un pour faire la mise en page et puis pour faire, bien sûr, la correction. Et puis après, un imprimeur pour imprimer un certain nombre d'exemplaires. J'ai évoqué un minimum de 1000. Et un des exercices consiste bien sûr à la distribution gratuite de ces livres. Il faut un réseau, il faut une association, il faut quelque chose sur place pour servir de courroie de transmission, de lien, pour que les livres ne restent pas au fond d'une armoire.
Ouais, tout à fait. On va parler en antenne. On va en discuter. Dernière question. Il y a la notion de voyage énormément dans Saint-Exupéry. Il a été donc, c'était un aviateur. Il est mort dans son avion, comme vous nous l'avez expliqué. Mais on sent qu'aujourd'hui il y a cette notion de romantisme autour du livre de Saint-Exupéry, donc du Petit Prince, parce que la notion de voyage elle est partout dans le livre. Elle est vraiment partout, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait encore rêver pas mal de jeunes aspirants au voyage, je suppose.
Oui, c'est tout à fait juste. Votre remarque est très pertinente. En fait, cette œuvre, c'est un écrit du voyage. C'est aussi un écrit de la mémoire parce qu'on parle de, on fait beaucoup de références. Enfin, Saint-Exupéry fait beaucoup de références à l'enfance dès sa dédicace à Léon Werth. C'est aussi un écrit des identités, par exemple celle avec le désert, qui est en fait un endroit qui force à la découverte de soi-même. Mais vous avez raison, c'est un écrit du voyage. Ça commence, mais dès la première page, même avant le titre, on voit un dessin du petit prince qui s'envole emporté par des oies sauvages, c'est la légende. Donc voilà, une invitation au voyage. Le petit prince est un aventurier. Saint-Exupéry était un aviateur et un aventurier. Le petit prince va de planète en planète. Il rencontre un géographe. Donc cette notion du voyage, d'exploration, elle est omniprésente dans le livre. Vous avez tout à fait raison.
Et j'ai une toute dernière question par rapport à ça. Si Saint-Exupéry n'était pas mort en 1944, est-ce que vous croyez que le petit prince aurait eu un tel succès comme il peut l'avoir encore aujourd'hui? Est-ce que sa mort a, entre guillemets, je vais employer un mauvais mot, mais romantisé un petit peu l'histoire du petit prince?
Alors, est-ce que James Dean et Marilyn Monroe auraient été les noms du cinéma qu'ils ont été? Ouais.
Jim Morrison en musique, enfin, Jim Morrison, on peut en parler plein, en fait.
Oui, il y a beaucoup d'exemples. Écoutez, Saint-Exupéry aurait certainement écrit d'autres chefs-d'œuvre, mais son petit prince était une œuvre et serait restée quand même une œuvre majeure, parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, elle est vraiment très dense. Le manuscrit, il y a des demi-pages entières qui sont biffées. Il va à l'essentiel. Et donc, et comme il le dit dans son livre, cet essentiel qui est invisible pour les yeux, qui fait appel, vous l'avez évoqué sous forme de romantisme, mais pas seulement le romantisme, ça fait appel au sentiment. Et donc, oui, c'est un livre fort, et je pense que quel était le destin de Saint-Ex, le petit prince aurait eu le succès qu'il méritait et restera un livre qui permet d'avancer et d'avoir du plaisir en le lisant.
Absolument. Merci, c'était un vrai plaisir de se parler. Ça donne le sourire à tout le monde de parler du Petit Prince, même 80 ans après. On a tous une relation avec le Petit Prince. Moi, je sais que j'ai une édition qui m'a été transmise par mon père, qui date de 1961, je crois. Donc c'est toujours quelque chose que j'espère transmettre à mes enfants quand ils auront compris l'importance du Petit Prince. Donc merci, et merci d'avoir pu un petit peu éclairer justement Saint-Exupéry. Merci.
Avec grand plaisir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour cette heure que nous venons de passer ensemble. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.